souhaitons la bienvenue à notre deuxième culte de cette année. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Bienvenue à ceux et celles qui sont sur Zoom. Vous qui nous rejoignez, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Et c'est avec une joie particulière que je me retrouve encore là devant vous et pour présider ce temps avec toute l'équipe. Et souhaitons que le Seigneur encore soit présent parmi nous. Et c'est le but de nos rencontres. Parce que s'il n'est pas là, ça ne sert à rien que nous puissions être là. Et nous nous déplaçons en vain. Mais nous croyons que fermement, par sa parole, il dit que là, deux ou trois sont rassemblés en son nom. Il est au milieu d'eux. Et nous croyons que par son esprit, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est parmi nous. Et je veux nous inviter à nous tenir debout et avant de commencer toute chose, remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Et je vais demander à mon frère, juste devant moi, de bien vouloir remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je voudrais vous introduire dans un temps un peu spécial. C'est vrai que dans ce culte de louange, d'adoration, nous voulons vivre ce temps-là comme un temps d'aspiration de l'âme où nous allons pouvoir prier. Entre ces chants, pouvoir prier. Donc, déjà, je vous dis, je vous invite à que nous soyons libres. Libres pour pouvoir élever la voix vers notre Dieu et prier. Ce que nous voulons, c'est les coutumes comme on l'a vu, hein, premier mois de l'année, on se souhaite à tous bonne année. Et on n'y déroge pas. D'accord? Mais ce que nous voulons, c'est pas juste se souhaiter bonne année, pour une bonne année. Et nous avons vu qu'on s'est souhaité la bonne année en 2020. Et l'année, elle était ce qu'elle était. Et rien n'a changé, si ce n'est qu'il y a une date sur le calendrier qui a changé, 2021, avec 12 mois avec lesquels nous aurons nos défis quotidiens à relever. Mais ce que nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de faire mieux que l'année dernière. Et chaque jour qui passe, c'est d'aller de mieux en mieux. Le but, c'est de progresser dans la ressemblance à Christ. C'est de progresser dans la qualité du culte que nous offrons à notre Dieu. Et quand je parle de la qualité du culte que nous offrons à Dieu, je ne parle pas seulement de cette qualité qu'on a le dimanche, on est ensemble réunis, mais je parle d'une qualité de vie, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, une année sur... et tout le reste du temps que le Seigneur nous donne à passer encore sur cette terre, à être de mieux en mieux, à progresser, devenir meilleur pour proclamer qu'il est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Et nous voulons insister dessus. Bien qu'on nous dise que « Où est ton Jésus ?» Encore, mais Jésus n'est pas encore revenu et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on refait surface. Dans ce temps de crise où la terre est secouée par un petit virus, on demande, mais ton Jésus, il fait quoi? Et nous voulons dire que notre Seigneur, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et que le temps qu'il nous donne à passer sur cette terre est un temps de grâce. Et nous, enfants de Dieu, nous devons saisir ce temps de grâce pour aussi proclamer qui il est. Romains 12, verset 1 nous dit, l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens de la ville de Rome, il dit, « Je vous recommande, donc frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Voilà notre vœu en ce matin, en cette année, que nous puissions offrir notre corps comme un sacrifice vivant et saint qui sera pour notre Dieu un culte raisonnable. Et quand on parle de ce sacrifice de ce corps, l'apôtre Paul parle de cette consécration entière. Tout ce qui fait que nous sommes, nous, que nous puissions donner à Dieu le meilleur. Le sacrifice qui nous rappelle ce qui se passait dans l'Ancien Testament était, ah ben, on donnait les prémices, ce qu'on a de meilleur à notre Dieu, pas le reste. Quand on faisait la récolte, on prenait ce qu'il y avait de meilleur, la première récolte, et on l'offrait à Dieu. La tête de troupeau, on l'offrait à Dieu. Ce temps-là, Jésus nous amène, nous. Quelle qualité de vie dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit? Parce que le corps agit avec ce qu'il y a dans l'esprit. Qu'est-ce qui est dans mon esprit qui me rend confort à Dieu? Et c'est pour cela que nous voulons chanter, mais aussi prier à Dieu, que Dieu puisse nous façonner. Nous façonner à l'image de son Fils bien-aimé. Ce Fils en qui il a mis toute son affection. Il disait à Pierre, ce Fils-là, suivez-le. Et je crois que nous avons la bonne part. Suivre ce Jésus et vouloir lui ressembler. Disons-lui, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de compréhension de ta voix. La parole dit que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît. Et nous avons besoin d'être transformés à l'image de Jésus. Plus de toi.
Seigneur, plus de toi, de ta volonté. volonté, Seigneur, plus de toi.
C'est notre désir de te ressembler chaque jour, toujours un peu plus. Et nous voulons discerner quelle est ta volonté, afin de t'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, comme un culte qui te plaise, éternel. Nous voulons pas seulement te servir de nos lèvres, mais du fond de nos cœurs. Vraiment, Seigneur, s'il te plaît, voici nos vies. Puisses-tu encore, Seigneur, nous transformer, encore briser nos résistances et nous rendre semblables à ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus.
Amen. Jésus, effectivement, Seigneur, nous avons besoin de plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être toujours alimentés par toi, Seigneur, pour pouvoir affronter, Seigneur, les différentes épreuves qui vont se dresser devant nous, éternel Dieu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te demander d'encore d'agir davantage, mais que nous puissions aussi faire ce pas vers toi, Seigneur, et te rechercher, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous ressemblons à ce qui nous nourrit, éternel Dieu. Alors nous voulons tout simplement, Seigneur, nous nourrir de toi, Seigneur, avoir te connaître davantage, Seigneur, pour pouvoir mieux avancer avec toi, éternel Dieu. Et nous voulons aussi que notre vie soit une louange devant toi, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses être, que tu puisses voir, Seigneur, nos vies comme un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur. Et que tu puisses être vraiment tous les jours, Seigneur, notre sujet d'adoration, éternel Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.
Un peu plus, nous avons besoin d'être purifiés. C'est le chemin de la sanctification. Nous avons besoin d'être débarrasser de tout ce qui n'est pas conforme à l'image de Christ. Comme l'or et l'argent, nous avons besoin d'être débarrassés de ces scories, comme nous dit la Bible, de ces impuretés. Parfois, nous devons passer par le feu. Des épreuves, parfois, comme le feu. C'est aussi à nous débarrasser, à nous rendre plus dépendants de Christ. Et nous voulons, comme une prière, le chanter. Purifie mon cœur. Purifie l'homme, Seigneur intérieur, afin que mon corps soit pour toi comme un sacrifice. Mon être entier soit pour toi comme un sacrifice de bon Dieu et qui te plaise. Purifie mon cœur.
Et prêt à t'obéir.
le prophète Jérémie, dans le livre des Lamentations, devant l'ampleur du péché du peuple et le jugement de Dieu, se rend compte que le péché s'y attachait au peuple et il fait cette prière. Seigneur, attire-nous à toi et nous reviendrons. Que le péché empêchait vraiment le peuple d'Israël d'aller vers Dieu. Retenez. Et nous voulons faire aussi cette prière. Conscient que nous avons besoin toujours d'être attirés par lui. Nos cœurs sont si fragiles, si promptes à se détourner. Mais Dieu a fait des choses nouvelles dans nos vies. Faisant naître en nous cette nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous donnons cette force de pouvoir aller. Mais demandons encore au Seigneur de nous attirer. Demandons-lui de nous attirer à lui. Seigneur, attire mon cœur à toi. Est-ce que c'est notre désir? En tout cas, le chant nous dit, je te désire tout près de moi. C'est là la prière d'un disciple. Être toujours à côté de son maître pour progresser. Progresser à l'image de ce qu'a fait le Christ pour nous. Dans sa vie, sur cette terre, dans ce qu'il a révélé du cœur aussi du Père. Seigneur, attire.
Don't.
Tiens-moi caché, sauveur, sauveur fidèle. Ce chant exprime vraiment cette proximité que nous disciples, devrions avoir avec Christ. Et encore avec ce chant que nous allons prendre, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir, car il est mon soutien. C'est auprès de lui que je veux entendre ce qu'il a à me dire. Entendre cette voix si précieuse pour me donner le cap dans la vie, c'est auprès de Dieu.
Dans le lieu saint pour contempler. contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. 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 Jésus, je veux être lié au seul beau nom. Oh Jésus. Je veux vivre pour toi. Oh. je m'abandonne à toi, que ton esprit agisse en moi. De tout mon être, de toute ma force, je te suivrai. De tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force, je te suivrai. De tout mon cœur, de tout mon être, ma force, je te suivrai. De tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force, je te suivrai.
Me voici.
Voici, je m'abandonne à toi, que ton esprit agisse en moi. Je veux vivre pour toi, oh, oh, oh. Me voici, je m'abandonne. Je te suivrai de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force. Je te suivrai de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force. Je te suivrai. Me voici. Je m'abandonne à toi, que ton esprit agisse en moi. Je veux vivre pour toi, oh, me voici. Je m'abandonne à toi, que ton esprit agisse en moi. Seigneur, sers-toi de moi.
Seigneur, voici ton peuple rassemblé. Pour le désir, Seigneur, de nos cœurs, d'être utilisé par toi. En ce temps où l'on prend conscience éternelle, notre Dieu, que nous devons être témoins. Témoins de ton amour. Témoins de ce que tu as fait dans nos vies. Fait que tu nous aies rachetés, lavés, purifiés. Pas que nous soyons dignes de quoi que ce soit, mais nous sommes le fruit de ta volonté. Et en retour éternel, nous voulons être prosternés devant toi. Jésus, me voici devant toi. Voulons nous prosterner devant ta croix et encore attendre. Attendre de toi, attendre, Seigneur, tes instructions. Venir devant le trône de la grâce. Et nous donner, Seigneur, cette directive pour que nos vies puissent être attractives. Jésus, me voici devant toi. Toujours plus dans les voies qu'il a tracées. Je vais appeler le le pasteur qui va nous délivrer la parole aussi du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.
Bénissons le Seigneur pour ce temps de louange. Et j'aimerais continuer ce que j'ai commencé avec vous la fois d'avant, dimanche dernier. Formuler les vœux en cette nouvelle année, en ce deuxième dimanche de l'année 2021. Formuler les vœux. Je vous avais entretenu la fois dernière dans le psaume 37. Et j'avais fait remarquer que ce psaume 137, Jésus, dans les évangiles, Jésus est l'auteur de la parole. Et lorsqu'il vient dans le monde, il manifeste au travers des paroles, des discours, des enseignements, que c'est lui qui était là déjà dans l'Ancien Testament. Et notamment, dans Matthieu chapitre 5, dans les Béatitudes, Jésus redit un certain nombre de psaumes avec la force de l'auteur divin qu'il est. Et je vous ai fait remarquer que le psaume 37, d'une certaine façon, dans la bouche de Jésus, se retrouvait dans ses béatitudes. Et donc, je voudrais ce matin que nous puissions regarder ces béatitudes. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 13. Ce matin, je ferai cette exhortation sur les quatre premières béatitudes. Et la suite, nous le ferons un autre dimanche. Il me semble que nos vœux sont des gentillesses vis-à-vis de ceux que nous aimons et même de ceux que nous ne connaissons pas. C'est ce qu'on appelle des civilités. Nous souhaitons des vœux, ne savons pas s'ils vont se réaliser ou pas. Nous n'avons aucune puissance pour qu'ils se réalisent dans la vie de l'autre. Mais par amour, par amitié, par courtoisie, nous souhaitons les vœux. Parfois de tout notre cœur. Parfois aussi, malheureusement, voilà. Comme c'est la période, on le dit vite fait. Jésus, dans ses béatitudes, nous aide à réfléchir toujours sur le thème du bonheur par rapport au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Et cette question du bonheur est importante, surtout en ce début d'année, surtout avec l'année que nous venons de vivre. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 13, sinon je lirai jusqu'au verset 12, et je vous aiderai je nous aiderai à comprendre les quatre premières béatitudes aujourd'hui. Je lis donc dans la version qui est la mienne ici. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Et prenant la parole, il les enseigna. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, qu'elles seront consolées. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est une section importante dans le discours, dans l'enseignement que Jésus donne à cette période-là non seulement aux disciples qui sont devant lui, mais c'est une parole que Jésus avait donnée pour qu'elle traverse les épreuves, n'est-ce pas? Le thème ici, heureux, signifie béni. Béni soit celui qui vit selon ce que Jésus va dire par la suite. Ces béatitudes enseignent que le bonheur résulte de la pratique de certaines vertus. Hein, les vertus, c'est des aptitudes, c'est des attitudes, c'est des qualités que nous développons. Ces vertus que Dieu approuve, bien sûr, n'est-ce pas? Ceux qui entrent dans le royaume de cieux, ceux qui appartiennent à Dieu, doivent développer dans leur temps présent ces attitudes, ces valeurs. Tous ceux qui s'appellent chrétiens, tous ceux qui sont disciples de Jésus, sont invités à aspirer à ces vertus, à les manifester. Même si on est en progrès et que c'est ultimement, lorsque nous serons dans le royaume éternel, que ces vertus auront pleinement leur quintessence. N'empêche que maintenant, Jésus nous les donne pour que nous commencions à les vivre et à les vivre en y excellant. Le bonheur et la joie qu'elle procure, ces vertus, s'enracinent profondément dans la parole de Dieu. Jésus montre que celui qui se dit chrétien, qui appartient au royaume des cieux, qui appartient au royaume de Dieu, ce royaume qui englobe tout ce qu'on peut entendre dans l'univers, rien n'échappe au royaume de Dieu. C'est lui le roi des rois, celui qui règne sur toutes choses. Même si c'est vrai que le péché a créé une rébellion, et cette rébellion, c'est dans celle-là que notre monde est aujourd'hui, parce que le monde ne connaît pas Dieu, le monde refuse Dieu, le monde refuse les valeurs de Dieu, et ça fait croire que Dieu ne règne pas. Ça fait croire que Dieu, c'est un petit Dieu qui ne sait pas manifester son autorité, loin de là, bien-aimé. Loin de là. L'apôtre Pierre, lorsqu'on lui a posé cette question, il a dit, si Dieu tarde, mais Dieu ne tarde pas. Mais si vous avez l'impression que Dieu tarde, c'est pour votre salut. C'est pour qu'un plus grand nombre ait encore une chance de se tourner vers Dieu. C'est pas parce que Dieu est un faible. Loin de là. Et ceux qui ont traité Dieu de faible l'ont fait à leur dépens. Pendant leur vie présente ou après leur mort. Et Jésus dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu se manifeste pleinement dans le peuple de Dieu, dans ceux qui sont appelés et qui ont accepté de suivre la parole de Dieu. C'est ceux-là qui manifestent aujourd'hui le royaume. Mais le royaume sera manifesté pleinement au jour du retour du Seigneur. Les chrétiens doivent donc mener une vie conforme aux normes et aux valeurs de ce royaume auquel nous appartenons. Nous sommes concitoyens du royaume des cieux. Autant dans notre pays dans lequel nous vivons, nous sommes citoyens d'un État, nous vivons avec les valeurs et les règles d'un État, autant le royaume de Dieu a aussi ses règles et ses valeurs. Et ces vertus-là font partie des attitudes que Dieu veut voir dans ceux qui appartiennent à son royaume. Et il y a deux catégories. Il y a ces vertus qui sont notre relation avec Dieu. C'est les quatre premières vertus, les quatre premières béatitudes, verset 3, verset 4, verset 5 et verset 6. Et puis, la deuxième catégorie, c'est celle qui va du verset 7 au verset 10. Et celle-là, elle parle de notre relation avec notre prochain. Elle parle de notre responsabilité vis-à-vis de notre prochain. Et c'est celle-là que nous verrons le dimanche suivant. Il y a un psaume qui est imprégné aussi dans ces béatitudes, c'est le psaume 1. Les deux premiers versets du psaume 1. Et le psaume 1 dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. » Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je reprends. Psaume 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des gens qui se moquent de Dieu, mais qui au contraire trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit, voilà l'homme, voilà la femme qui est bénie de Dieu. Voici le jeune homme, voici la personne âgée, voici la personne adulte, voici l'enfant qui est béni de Dieu. Et il dit, pour ce faire, quatre premières attitudes. La première attitude, c'est, tu es béni si tu es pauvre. Parfois, on a compris qu'il s'agissait de la pauvreté matérielle. Non. Clairement, cette béatitude ne parle pas de la pauvreté matérielle. Elle parle de cette pauvreté qu'on appelle la pauvreté du cœur, la pauvreté de l'esprit. Elle parle du fait que l'homme doit se sentir pauvre devant Dieu, qu'il n'est pas aussi riche qu'il le croit devant Dieu. Qu'en dedans de lui, ce qui est au-dedans de lui, ce n'est pas un trésor, c'est plus une pauvreté, que son trésor vient de Dieu. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre trésor est dans notre nature humaine, ben nous sommes bien pitoyables. Parce que notre nature humaine est une nature déchue. Elle est bien pauvre. Elle a été appauvrie par le péché. Elle a été... L'apôtre Paul dit, pour lui c'est comme des rebuts, donc c'est comme quelque chose qui est à la poubelle. C'est une nature... Je m'excuse de l'expression, parfois il faut donner des vraies expressions, des thèmes pour qu'on comprenne, c'est de la décomposition. Notre nature humaine sans Dieu est une nature décomposée. Malgré tout ce qu'on peut voir, que sans Dieu on a du progrès, on a de l'évolution, mais en fait, sans Dieu, on est un peu comme des zombies. Des gens qui marchent, mais qui n'ont pas d'âme. On est pauvres. Et dit, heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont totalement impuissants à cause du péché. Et que si Dieu laisse le bien dans le monde, si Dieu nous laisse le progrès, si Dieu nous laisse d'être quand même sans lui des gens de bien, ça montre encore que nous sommes bien pauvres. Parce que c'est lui qui permet que le bien subsiste malgré le fait que nous sommes si mauvais. Donc le bien même que nous savons faire nous vient de lui. Heureux donc, les hommes, ils reconnaissent que sans Dieu, il n'y a pas de richesse intérieure. Parce que celle qu'on garde, celle avec laquelle on part dans l'éternité, c'est soit la pauvreté spirituelle, soit la richesse spirituelle. Parce que la pauvreté matérielle ou la richesse matérielle, on la laisse ici. On ne part pas avec. Quel que soit tout ce qu'on peut mettre le dernier jour dans ta dernière demeure, tu ne pars pas avec. La preuve, c'est que des gens malencontreux viennent même te le voler dans le cimetière lorsque tes parents l'ont mis dans ta tombe. Combien de tombes n'ont pas été profanées pour voler ce qui est dedans? C'est là qu'on se rend compte que la personne ne va pas avec ces choses-là. Le prophète dit, je suis né nu, je partirai nu. Je suis venu sans rien, je partirai sans rien de matériel. Mais la seule chose avec laquelle je peux partir, c'est ma richesse spirituelle. Ma relation avec Dieu, c'est celle-là. Alors, heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu est pour ceux-là. C'est ceux-là qui composent le royaume de Dieu. Des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des adultes, des personnes âgées qui reconnaissent que Dieu est leur essentiel, est leur richesse, est leur trésor. Ensuite, il dit la deuxième attitude, la deuxième vertu, c'est heureux les affligés. On dit, oula, comment on peut être heureux si on est affligé? Comment on peut être heureux si on est triste? Comment on peut être heureux si on a du chagrin? Ce n'est pas de cela qu'il parle. Jésus ne parle pas du chagrin ou de la peine que cause la perte d'un être cher. Non. Jésus parle de l'affliction que l'être humain ressent vis-à-vis du mal, vis-à-vis du péché. Est-ce que il y a des faits Il y a encore un père dans ce pays de la France célébrait à sa façon à lui la disparition de sa fille qui a disparu il y a maintenant 17 ans. Enlevée un certain jour par un certain homme tordu qui a fait tout ce qu'il voulait à cette fille. Jusqu'aujourd'hui, on ne retrouve pas le corps de cette fille. Ça nous afflige ce mal que quelqu'un soit capable à ce moment-là d'enlever une jeune adolescente, de lui faire ce qu'il a envie de lui faire et que les parents n'ont jamais su ce que cette fille a fait. C'est ça que Jésus dit. Si ce genre de choses vous afflige, vous êtes bienheureux. Mais si ça ne vous afflige plus, si le mal ne nous fait plus pleurer, ben nous sommes bien tristes. Et malheureusement, de moins en moins, ça devient tellement banal. Les faits divers deviennent tellement banals que finalement, moi, je n'accuse personne, mais je suis toujours intrigué de la façon dont dans les journaux télévisés ou radio, on passe des nouvelles tristes à la rubrique d'après. Il t'annonce que dans un pays, malheureusement, des gens ont pris des armes, ils ont tué une centaine de personnes, et la fois d'après, on va parler de Noël, on va parler de... Il y a tellement d'informations, c'est pas de leur faute, qu'on passe de la tristesse. Mais Jésus dit, le croyant, le chrétien, il doit être affligé par le mal. Le mal ne doit jamais le laisser indifférent. Le péché fait du mal. Le péché te fait du mal à toi, fait du mal à l'autre, et ça doit te faire pleurer. Et nous, les évangiles, nous disons, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est un mal devant Dieu et fait du mal à l'autre. Si je mens à mon épouse, c'est un petit mensonge, on va dire. Ça fait pas de mal. Mais c'est pas vrai du tout. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de mentir à mon épouse? Ça veut dire que j'ai entamé quelque chose qui s'appelle le capital confiance. J'ai entamé quelque chose qui s'appelle le capital confiance. Donc j'ai pris sur moi le risque de semer dans la confiance de mon épouse le doute. Sur le moment, c'est un petit mensonge. Mais c'est une graine que j'ai semée. Et c'est une mauvaise graine. Donc en soi, aussi petite soit-elle, elle peut générer quelque chose d'énorme. Donc, autant m'abstenir de ce petit mensonge. Autant ne pas avoir cette façon de dire, c'est mon péché mignon. Ça n'existe pas de péché mignon. Je suis désolé. Le péché, par définition, ne plaît pas à Dieu. Il fait du mal à soi et à l'autre. Donc, on ne peut pas dire, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu est mignon. Quelque chose qui me fait du mal est mignon. Quelque chose qui fait du mal à mon prochain est mignon. Ça ne peut pas être mignon, ça. Voilà comment notre monde forge parfois des expressions qui elles-mêmes sont des horreurs et qui ne nous affligent plus. Heureux ceux qui sont affligés. Car le Seigneur dit, ces gens-là seront consolés. Parce que ceux qui ont en horreur le mal, Dieu leur donne la force de faire le bien et de vivre selon la volonté de Dieu. La troisième et l'avant-dernière, il dit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur doux, heureux ceux qui sont pleins de douceur. Et Jésus le dira dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos, car mon joug est léger, et je suis quelqu'un qui est doux de cœur. Hein? Il dit, certes, je suis Dieu, mais je suis un Dieu doux. Je suis pas le Dieu père fouettard. Oui, mais je suis le Dieu juste, je juge aussi. Mais avant de juger, je donne toutes les possibilités pour que la personne n'arrive pas jusqu'à mon jugement. C'est en cela qu'il est doux. On dit parfois, nous, on donne deux, trois chances. Jésus, je ne sais pas combien de chances il nous donne de nous relever. Le psalmiste, il a pris un chiffre symbolique. Il dit, sept fois, le juste retombera, sept fois, et le sept, c'est le chiffre complet. C'est autant de fois que le juste tombe jusqu'à ce qu'il ne soit pas sot pour rester dans sa bêtise, Dieu va l'aider. Jésus dit, je suis le doux. Et l'apôtre Pierre dira aux femmes, dans 1 Pierre chapitre 3, 4, recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, même si c'est utile, Mais il dit, c'est pas celle-là d'abord qui est votre beauté. Mais il parle aux femmes, mais il parle à tous les chrétiens, hein, parce que c'est une parole pour nous tous. Il dit, cette parure extérieure, qui sont les cheveux, les bijoux, les toilettes élégantes, c'est ce qui est important du reste. Il dit, mais celle qui vous faut le plus, et à nous tous, parce qu'aujourd'hui, on est soit de parure, et les hommes et les femmes, la compétition est bien dans la société. Bref, il dit la parure, celle intérieure, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible. Il dit, c'est ça que Dieu cherche en nous. Des gens qui sont posés, des gens qui sont doux, des gens qui manipulent plus la douceur que la violence, des gens qui font attention à leurs paroles, parce qu'une parole, quelqu'un dit, nos paroles sont parfois comme des armes qui sont armées et qui font plus mal que même des vraies âmes. Parce qu'il dit une parole blessante, mais elle détruit aussi bien qu'une arme pointée sur quelqu'un peut le tuer. Il dit, il y a des parents qui ont sorti des paroles qui ont tué des enfants. Et des expressions, excusez-moi du terme, qui sont parfois dites, banales. Tu ne réussiras jamais dans ta vie. Comment on peut dire ça, son enfant? T'es tout en bête. Je m'excuse. T'es bête ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression qu'on a pris à la légère, mais c'est pas possible de dire ça en son enfant. C'est pour ça que tu ne deviendras jamais rien dans ta vie. T'es qui, toi, pour lui dire ça? Même si tu es son parent. Quelle destinée tu donnes à un enfant quand tu dis ça? On a manipulé la violence dans la parole. Nous sommes une société. On est devenus des champions des paroles blessantes. Heureux les doux, ceux qui savent que manipuler la douceur. Imaginez-vous tout ce qu'on dit de Dieu. Si en longueur de journée, Dieu tuait tous ceux qui lui disent « Tu n'es pas Dieu, tu es un faux Dieu, tu n'existes pas. » Si Dieu tuait tous ces gens-là, tous les jours que quelqu'un dit « Dieu n'existe pas. » Franchement. Et Jésus dit « Prenez exemple sur le Père. Autant il est parfait, soyez parfait. » Si lui, il manipule la douceur, même s'il est juge, même s'il est juste. C'est pas dit ici que la colère n'est pas dans notre nature, mais c'est cette colère maîtrisée. La Bible dit que la colère, quand elle n'est pas maîtrisée, elle n'accomplit jamais la justice de Dieu. Combien de gens amoureux ont fini par faire le geste fatal? De tuer celle qu'ils aimaient, de tuer celui qu'ils aimaient, par un accès de colère. On dit qu'il n'a pas prémédité, mais c'est involontaire, c'est un acte passionné. Tellement il aimait que sa colère, il n'a pas pu la maîtriser. Chapeau les humains. On aime quelqu'un ou on ne peut pas maîtriser sa colère ou on tue l'être aimé. Chapeau les humains. Ils sont vraiment spéciaux. Heureux les doux, ceux qui font attention à ces choses. Dans leur attitude, dans leur façon de parler, dans leur rapport à Dieu, parce que Dieu est un Dieu doux. Doux de cœur. Ceux qui se soumettent aussi. Le doux, c'est celui qui ne résiste pas à Dieu, qui se soumet à Dieu, qui aime sans résister faire la volonté de Dieu. Hein? Vous savez, il y avait une expression que Dieu donnait au peuple d'Israël. Il dit, c'est un peuple au courant. Ça dit, c'est un peuple, quand tu leur dis, va à gauche, ils vont tout droit. C'est pas possible. Il dit, la direction, c'est à gauche. Mais comme ils ont le courant, ils ne peuvent pas tourner. Et ce courant, ils se sont donné eux-mêmes. Et si on n'a pas le cœur doux, parfois on est comme ça. Dieu dit, mais voilà ce que tu dois faire. Tu dis, j'entends, mais je ne ferai pas. Je ne peux pas être doux en ce moment. Tu résistes. Que Dieu nous aide. Enfin, et pour terminer, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui ont un appétit spirituel pour les choses de Dieu. Le thème justice ici parle de tout ce que Dieu dit, Dieu fait, parce que Dieu est le juste par excellence. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de tout ce que Dieu dit. Le psaume 19 parle du fait que la loi de Dieu, c'est la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de tout ce que Dieu déclare juste. et qui veulent le voir et qui veulent l'accomplir dans leur vie et qui veulent aider les autres à les accomplir dans leur vie. C'est ce désir profond d'être en bonne relation avec Dieu. La Bible dit que nous sommes justifiés, non par nos œuvres, mais par l'action de Jésus-Christ. Dès le moment où nous avons pris conscience que nous sommes des pécheurs et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et que Jésus est venu justement pour payer le prix et que nous avons compris que si nous faisons cette démarche vis-à-vis de Jésus, il nous accorde sa justification, nous devenons justes. Et parce que nous sommes devenus justes, ben nous devons avoir faim et soif de cette justice. Cette justice de Dieu. Donc c'est d'abord ça. Et puis ensuite, le chrétien doit, c'est lui qui doit être juste. Essayer autant qu'il peut d'être juste dans tout ce qu'il fait. C'est une vertu. Être juste. Parfois, c'est pas évident. C'est pas simple. Parfois, c'est tellement imprégné de nos relations que c'est pas simple. Moi, je me souviens d'un épisode, je termine par là, où ma famille avait tort. Mais on n'était pas chrétien en ce moment-là. Mais j'avais commencé à développer ces choses dans mon cœur. Je pense que Dieu s'en est servi plus tard. Et puis, on avait un litige avec les voisins. Bah, toute la famille voulait aller en découdre avec les voisins. Et puis, moi, j'ai eu la stupide idée de poser la question à tout le monde, même aux parents. Mais est-ce qu'on a vraiment raison? Oh là 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 là. Toi, t'es jamais avec la famille. On dit que la famille est accusée. Et toi, tu dis, est-ce qu'on a raison? C'est pas une question de raison. Quand la famille est accusée, tout le monde doit être avec. Ça coûte souvent la justice. C'est pas forcément un effet de groupe. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est droit? C'est ça les familles chrétiennes. C'est ça les chrétiens. Est-ce que c'est juste? Devant Dieu. Est-ce que c'est droit? Voilà, bien-aimés, ces quatre premières béatitudes pour aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Bonne année. Que ces quatre valeurs, que ces quatre attitudes, que ces quatre bénédictions qui sont susceptibles, si nous les vivons, de nous rendre heureux, que Dieu nous aide à les vivre. Que Dieu nous aide à les vivre. Le bonheur n'est pas fondamentalement ou en premier lié à ce qu'on possède comme bien matériel. Non. Le bonheur, finalement, c'est ce que nous sommes, ces valeurs, ces vertus que Dieu nous donne de développer. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants du roi. Nous devons vivre comme des enfants du royaume. Ma prière, c'est que Dieu nous aide. En cette année, Jésus dit, c'est Jésus qui le dit, nous sommes bénis, nous sommes heureux si nous vivons ces choses. Alors je nous souhaite de vivre ces choses dans nos relations de couple, dans nos relations de famille, dans nos relations d'église, dans nos relations dans la société, pour que cette année, vous savez, quand on a fait ces vœux au début de l'année 2020, nous ne savions pas ce qu'il y avait. On s'en doutait un peu parce que on commençait à entendre ce qui se passait en Chine, fin de l'année 2019. Mais on se disait, c'est loin, la Chine. Wuhan, c'est une ville qu'on ne connaissait même pas. Et de toutes les façons, les Chinois, ils sont spéciaux. Et puis finalement, en l'espace d'un mois, le monde entier a été bouleversé. Et là, c'était bien-aimés, nous commençons une année. Si nous prenons les bonnes habitudes, si nous nous calons sur le bon plan de Dieu, quelles que soient les situations, les circonstances, le bonheur, la bénédiction de Dieu sera notre partage.